comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un des films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Non pas un président français à Marseille, mais un grand acteur américain, Matt Damon, dans Stillwater de Tom McCarthy, le film qui a ouvert hier soir cette 47e édition du Festival du film américain à Deauville, où nous sommes ce matin en public et en direct depuis l'hôtel Barrière, le Normandie. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Et bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Et pour cette première de la saison, un invité américain de père et français de mère et de cœur, le cinéaste Oliver Stone, qui persiste et signe dans son investigation sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à travers ce doc JFK, l'enquête. Tandis qu'à la fin de cette heure, nous retrouverons la réalisatrice Ninia Thiberg. Elle présente en compétition Pleasure, l'histoire de cette jeune Suédoise qui débarque à Los Angeles pour faire carrière dans l'industrie du porno. Le film sortira en France le 20 octobre prochain. Ce sera l'un des 13 longs métrages en compétition ici à Deauville, sous le regard de ce jury dont 3 de ses membres sont avec nous ce matin.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Oui, à Deauville, avec 3 membres de ce jury, un acteur et 2 cinéastes. Bonjour, Denis Podalydès. Bonjour. Et bienvenue, Bertrand Bonello.
Bonjour.
Et bonjour, Michael Herz.
Bonjour.
Le regard français sur le cinéma américain, c'est important, Bertrand Bonello. Et quel regard est-il?
Oula. Il a une histoire, déjà.
Oui.
Le regard français sur... alors, on a été un petit peu obligé de revenir à la nouvelle vague. Enfin, mais c'est vrai que c'est un regard français sur un cinéma américain à un moment qui dit, voilà... ces films commerciaux de studio, ils ont des cinéastes, ils ont des auteurs, et ce sont des grands films. Et c'est vrai que ça y est, une bascule à ce moment-là, je pense.
Et ce regard a un petit peu changé aussi sur le cinéma français à l'inverse, avec cette palme d'or Titane. Ça a un petit peu balayé les idées peut-être que le monde entier avait sur le cinéma français. Je parle de Titane parce que vous êtes acteur dans cette palme d'or.
Oui, enfin je
oui.
Je meurs assez vite. Hein.
Oui, assez très vite, oui. Voilà. Oui, en fumée.
Mais vous connaissiez la réalisatrice Ducournau, Julia Ducournau, depuis longtemps.
Je la connais depuis longtemps, j'ai été son tuteur à la Fémis et après on est resté assez proche et je devais jouer déjà le père dans Grave, mais je pouvais pas.
Ouais.
Donc là, elle m'a redemandé de faire le père, j'ai lu le scénario, j'ai dit bon bah voilà, elle veut tuer le père. J'ai dit,
c'est amusant d'être acteur dans un film.
Oh bah c'est assez agréable, hein. C'est le plaisir du plateau sans le poids sur les épaules.
Mmh. Mmh.
C'est-à-dire que c'est pas, on n'a pas à décider si c'est bien ou si c'est pas bien, il y a quelqu'un qui le dit, donc c'est que si on me dit faut refaire, je refais, si on me dit c'est bien, on passe à autre chose. Non, c'est assez agréable.
Michael Herz, est-ce que le cinéma américain fait partie de votre cinéphilie?
Ah oui, complètement, ouais. Oui, je suis arrivé au cinéma par le cinéma américain. J'ai un père cinéphile qui m'emmenait voir des films assez tôt, voilà, au Quartier Latin.
Oui.
Donc voilà, des Lubitsch, des Capra, des Kazan. Puis à côté de ça, je suis de la génération un peu des teen movies, donc toutes les séries. J'attendais la sortie du prochain Star Wars, des Retours vers le futur, enfin tous ces films-là. Puis après, voilà, les découvertes de Palma, des Scorsese, de tous ces... Oui, c'est vraiment le cinéma qui m'a façonné, oui.
Et dans votre cinéma, vous avez des modèles en tête quand vous réalisez?
Non.
Des figures américaines?
Non, pas vraiment. Non, je fonctionne pas comme ça, j'ai pas de mimétisme ou de... Non, j'essaie au contraire de mettre les films à distance quand j'en fais.
En fait, vous allez voir ici des films qui sont pas la même vision d'Amérique qu'on voit dans les blockbusters. Vous allez voir du cinéma indépendant. Donc vous espérez, j'espère, voir un autre visage de l'Amérique à travers ces films?
Bah, de toute manière, quand on voit un film étranger, on attend un peu toujours des nouvelles du pays par le cinéma et d'autant plus quand c'est ce qu'on appelle le cinéma indépendant, même si cette clarté qu'il y avait pendant longtemps de cinéma de studio au cinéma indépendant, elle s'est un peu balayée. Enfin, c'est entre le cinéma de studio qui est parti dans un sens, les plateformes qui récupèrent certains cinéastes, le cinéma indépendant qui essaye un peu de surgir. Je me faisais la réflexion sur l'annonce quand même que je trouve absolument incroyable, démente et bouleversante de Coppola il y a 3 jours. C'est-à-dire...
Rappelez-nous ce qu'il a dit.
Eh ben, en fait, il a un projet qui s'appelle Megalopolis, qu'il va faire depuis 20-25 ans, qui est pour lui le grand film de sa vie. Presque, il appelle ça le premier film de Coppola, puisqu'il n'y a pas d'autre auteur que lui-même. Et il a décidé de mettre toute sa fortune pour le réaliser, c'est-à-dire quelque chose aux alentours de 100 millions. Peu importe l'argent, c'est-à-dire que même là, il décide de rester indépendant. Et je trouvais ça très très beau comme geste final quelque part, parce qu'on sait que ce sera un geste final. Il n'a pas envie de faire ce que Scorsese a fait avec Netflix, parce que je pense que s'il va voir Netflix en leur disant « vous pouvez avoir pour 100 millions un Coppola », ils vont dire oui, mais même ça, il n'a pas envie. Il préfère mettre toute sa fortune et rester indépendant. Donc cette notion d'indépendance, elle est très très bouleversée, mais ça me rend d'autant plus curieux évidemment de voir les 13 films que nous allons voir.
Denis Podalydès, vous petit, vous avez vu des films avec vos parents et votre frère.
Télévision, beaucoup. Ça a commencé par le western du dimanche après-midi, John Wayne, et toutes ces séries de western qu'on voyait tous les dimanches, que j'étais moi très petit, je les distinguais pas forcément tous, mais ça a créé une mythologie cinématographique, avec ses voix françaises d'ailleurs. C'est beaucoup plus tard que j'ai eu accès un peu plus grand aux voix originales.
Et ces voix françaises vous ont donné envie de faire ce métier où on fait partie de...
Elles m'ont fait y jouer, oui, beaucoup. C'est-à-dire que très souvent, on rejouait le film avec mon frère Bruno, rentré à Versailles, parce que souvent on voyait les films à Paris.
Vous étiez John Wayne ou James Stewart plutôt?
James Stewart, non.
J'aimais faire le méchant et j'aimais mourir. Ouais. J'aimais... des grands plaisirs d'acteur, c'est souvent un plaisir d'acteur, c'est de mourir en scène. De prendre... Apparemment, tu l'as fait dans Tintin que je n'ai pas vu, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un grand plaisir à... Ah, mais j'ai failli dire, j'ai peu mouru. Je suis peu mort. Je suis peu mort au cinéma, en fait, si je me rends compte.
Mais après, il y a des acteurs américains que vous avez découverts petits, que vous gardiez en tête dans votre jeu
Steve McQueen. Qu'il y avait aussi, c'était pas vraiment du cinéma, c'était la télévision. Comment s'appelait la série de Steve McQueen? Joss Randall.
Oui, Joss Randall.
Voilà. Au nom de la loi.
Ouais,
au nom de la loi.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc c'est vraiment entré dans l'enfance. De manière un peu indistincte, et au fil du temps, comme ça, oui, j'ai développé cette mythologie jusqu'à ce qu'adolescent, je découvre Coppola, justement, Scorsese, De Palma, et ces acteurs qui ont formé ma génération, je dois dire, qui sont Pacino et De Niro. Ils étaient là au cœur même de l'inspiration de, je crois, de tous les acteurs et de toutes les actrices. Mmh. D'ailleurs, c'était pas forcément sexué.
Quand vous voyez des acteurs américains, je m'attends dans les films, vous les trouvez loin de vous ou pas?
Pas tant que... À la fois très loin et parfois soudain très proche. Le film d'hier soir, c'est soudain j'apercevais un ami, mais dans un quart de plan durant un quart de seconde.
Un ami, c'est-à-dire
Un ami acteur qui jouait dans le film Stillwater.
Oui.
Alors ça me rend la chose toute proche. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tiens, salut, j'ai envie de lui dire bonjour, il a disparu. Je vois Camille Cotin en dialogue avec Matt Damon, alors...
Mais oui, c'est vrai que c'est amusant, ces acteurs français, dont on découvre qu'ils savent parler anglais et qu'ils savent jouer en anglais.
Très bien, d'ailleurs, Camille Cotin parle très bien anglais.
Oui, oui. Et vous?
Si je parle anglais?
Oui.
Je vais jouer une scène en anglais dans... les séries que tourne Olivier Assayas. Je peux tourner en anglais. Je fais pas si
un appel énoncé.
Mais vous avez tourné dans un film américain qui s'appelle Da Vinci Code.
Oui, oui. Je prends un grand point dans la figure. Vous voyez, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, mais c'est une scène minuscule.
Vous jouez le contrôleur aérien.
Oui, ah ben voilà.
C'était un grand barnum, Da Vinci Code.
Non, ce qui était très touchant, c'est là où j'ai vu qu'il y a un moment, plus on se rapproche de la caméra, et plus tous les films se ressemblent, que ce soit un court-métrage ou une super production hollywoodienne, parce que quand on est dans tout proche de la caméra, finalement, ce sont les mêmes questions. Est-ce que je suis bien là, de ce côté-là? Le réalisateur qui hésite, qui demande à son opérateur de modifier un petit peu un cadre, qui est pas trop content avec le travail de l'accessoiriste, enfin, des choses tout à fait banales, alors que quand on arrivait dans ce Da Vinci Code, c'était des camps successifs, parce qu'il y avait eu les attentats de Londres, donc il y avait un premier rideau qui était l'armée. Il y avait des agents secrets, enfin tout un service de renseignement, ça c'était le deuxième rideau, et on arrivait enfin, c'était que des checkpoints, et on arrivait enfin à la cité du tournage, qui était une énorme ville faite de carreloges, avec des noms de rues d'ailleurs, et là on arrivait vraiment... en voiture, et on m'a amené en voiture jusqu'au pied du carreloge qui m'était destiné, alors que je tournais 2 heures, moi je tournais très peu de temps, j'ai eu le plus grand carreloge de toute ma vie, et puis je me rappelle d'avoir vu tout au bout de l'allée, son nom m'échappe, la vedette du film.
Tom Hanks.
Attendant, très placidement, de manière, et ça m'a beaucoup touché, ça... totalement absent au bout, je sais pas ce qu'il faisait, et je l'ai regardé, ça a duré un temps, il était fixe, planté dans la ruelle entre deux carreloges, je sais pas ce qu'il faisait, j'ai jamais su.
Michael Hirst, au vu de ce que raconte Bertrand Bonello sur le cinéma américain, son indépendance, Coppola qui sacrifie sa fortune, etc., est-ce c'est plus confortable d'être un cinéaste français finalement qu'américain?
Oui, non, de toute façon, on est très aidé, évidemment, on a beaucoup de chance. Oui, ça c'est bien sûr. J'imagine que c'est beaucoup plus confortable, mais que dans la plupart des pays, de toute façon.
Vous allez avoir très suivi Bertrand Bonello, c'est important, c'est très important pour tous ces cinéastes qui démarrent en fait, premier, deuxième film. Un festival, ça peut lancer ou même casser une carrière.
On espère que ce sera pour lancer une carrière plutôt que casser.
Non, mais ça peut, c'est important. Enfin, je veux dire,
oui, c'est important parce que c'est vu par des professionnels, c'est relayé, les choses se savent, etc. Ça peut faire des buzz en tout cas, dans un sens comme dans l'autre. Oui.
C'est quoi un bon film, Denis Podalydès? Parce que vous allez en voir 13 là.
Oh la question.
Oh là là. Tu veux pas la 30 secondes, hein, on a largement le temps.
Un bon film, c'est une bonne histoire, c'est un scénario, c'est une mise en scène, c'est des acteurs,
c'est quoi ? Ça peut devenir un bon film par l'un de ces aspects-là, par les acteurs, par le scénario. C'est une sorte de faisceau, de raisons qui se mettent en place, qui fait qu'on est embarqué, en fait. Je pense, c'est du même ordre qu'un spectacle peut-être de théâtre. Vous êtes embarqué ou vous ne l'êtes pas, vous restez à quai ou pas. Après, je pense je ne sais pas comment on va discuter ensuite, parce que parfois un film fait son chemin.
Oui.
Pour moi, peut avoir besoin d'un certain temps pour se réorganiser dans ma mémoire. Et parfois, je ne sais même pas si je suis vraiment touché ou pas. Mais je sais à peu près si ça m'intéresse ou pas. Ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Bon. Mais je ne me tiens pas à ça. Je ne me fais pas un jugement. J'ai toujours été très attentif au jugement des autres. J'avais assez peu confiance dans mon propre jugement.
C'est pas bien de dire ça au monde du jury avant.
Je le dis aussi. Donc j'aimais écouter. Et parfois ça a contribué ou à changer ou à renforcer. Mais je préfère le dire. Je m'aide de ça parce que finalement c'est une chose trop importante. Je n'aime pas, par exemple, dire j'aime ou j'aime pas.
Oui.
Je déteste commencer par dire ça.
Bien sûr, il faut argumenter.
Je veux d'abord voir un peu, comprendre ce que le réalisateur a voulu. Et après je me détermine un peu d'abord en fonction de ça. J'essaie d'identifier un peu le projet. Est-ce qu'il a atteint la cible, à peu près? Est-ce qu'il a voulu faire est-ce qu'il semble avoir fait ce qu'il voulait faire? Oui ou non? Voilà, c'est un point de départ pour une réflexion.
Merci à tous les trois. Vous serez dans le jury avec Marcia Romano, Sébastien, Fatou Ndiaye et Delphine de Vigan. Et bien sûr, Charlotte Gainsbourg, qui a réalisé son premier film, un film sur sa mère. Ça s'appelle Jane par Charlotte.
Très
on
beau
va
film.
Se quitter avec ça. Merci beaucoup.
Merci.
On a toutes les deux une pudeur, l'une en face de l'autre, et je sais pas d'où elle sort.
Comme tu m'intimidais comme enfant, je me sentais très privilégiée d'être dans ta présence. C'était pas banal. Alors, ça commence bien. À un moment donné, tu te reconnais pas.
Il y a ça, un moment où on s'en fout.
Je pense que j'y arrive à le moment où on s'en fout. Il faut mieux juste enlever ses lunettes, comme ça tout est flou. Il me semble que moi je suis toujours tourmentée à cause des culpabilités, des se demander si c'était pas ma faute, si j'aurais pas dû faire autrement à propos de tout. Souvent, je me suis pas sentie responsable. Je me suis comportée comme une mère, enfant, copine, peut-être pas assez responsable.
Pourquoi apprend-on à vivre sans sa maman? Il me semble que c'est un but qu'on se donne, s'affranchir à tout prix. J'ai pas envie de m'affranchir.
Charlotte Gainsbourg, donc réalisatrice de ce film Jane par Charlotte. Nous sommes en direct à Deauville au Festival du film américain. Cela ressemble à de l'acharnement, cette quête de vérité d'Oliver Stone sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Sa fiction JFK avec Kevin Costner mettait en scène le procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, persuadé, malgré les conclusions du rapport Warren sur la culpabilité de Lee Harvey Oswald, persuadé qu'un complot se tramait et que CIA, FBI et Pentagone avaient joué un rôle déterminant dans cette affaire. En décembre 91, Stone projette son film aux membres du Congrès et en 92, une loi est votée pour déclassifier et donc rendre public certains documents relatifs à l'assassinat qui devait être bloqué, ces documents, jusqu'en 2029. Et c'est à l'appui de ces documents, justement, que Oliver Stone réalise JFK, l'enquête et cette introduction, le discours de paix prononcé par Kennedy en 61. On retrouve ensuite Oliver Stone, traduit par Harold Manning.
J'ai donc choisi ce moment et cet endroit pour évoquer un sujet auquel l'ignorance est trop souvent liée. La vérité est trop rarement perçue. C'est pourtant le sujet le plus important sur Terre, la paix. À quel type de paix fais-je référence et quel type de paix recherchons-nous? Non pas une Pax Americana, imposée au monde par les armes de guerre américaines. Non pas la paix de la tombe, ni celle de la sécurité qu'offre l'esclavage. Je parle d'une paix authentique, du type de paix qui fait que la vie sur Terre vaut la peine d'être vécue. Un type de paix qui permet aux hommes et aux nations de se développer et de construire une vie meilleure pour leurs enfants. Non seulement la paix pour les Américains, mais la paix pour tous les hommes et les femmes. Non seulement la paix pour notre époque, mais la paix pour tous les temps.
Bonjour Oliver Stone.
Bonjour.
Près de 60 ans après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et 30 ans après votre film JFK, vous revenez avec ce documentaire JFK Revisited, en fait JFK l'enquête, ça va s'appeler en français, un gigantesque travail de recherche fondé sur archives et témoignages. Est-ce que revenir sur cette enquête, c'est presque comme une mission que vous vous donnez? Est-ce que vous vous dites, est-ce que si je le fais pas, personne ne le fera?
A mission to remember.
Une mission pour le souvenir. Parce que mon pays a un grand trou de mémoire quand on parle de John Fitzgerald Kennedy. Le consensus général est une mythologie. Il a été assassiné, ses traces, il était jeune, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire. Il était très ambitieux, très plein d'idéaux. Il faisait beaucoup de discours, mais peu d'actions. Il a été assassiné par un lunatique qui était communiste. Monsieur Johnson a repris le pouvoir ensuite, et puis voilà. Voilà ce qu'on apprend à l'école, voilà ce qu'on entend dans les livres d'histoire. Et c'est tout ça, c'est de la merde. Je me bats pour moi et les gens qui font des recherches, il y a tellement de preuves, on se bat vraiment. On veut dire et veut prouver qu'il était un libéral, qu'il était un combattant, que oui, il avait commencé au début pour se faire élire en 1960. On ne pouvait pas se faire élire avec une attitude douce ou soft envers le communisme. Il fallait être dur contre le communisme. Donc il l'était. Mais après la baie des cochons, les choses ont commencé à changer très rapidement.
Ce qui est dingue, c'est votre film pointe sur des choses mais folles, des incohérences, des chirurgiens intimidés, des témoignages qui disparaissent, des notes d'autopsie détruites, une photo maquillée du crâne de JFK. C'est fou de retrouver des preuves comme ça, 60 ans après un assassinat.
As a result of this act,
suite à cette recherche, cette investigation pendant 4 ans, ils ont reparlé avec des témoins et ils ont trouvé des trésors de nouvelles informations. Ils ont regardé à 2 millions, consulté 2 millions de documents, pardon, 63 000 documents, 2 millions de pages. Cependant,
Trump did not go all the way.
N'est pas allé jusqu'au bout. À la dernière minute, la loi a dit que les documents pourraient être totalement sortis en 2017 seulement. Et donc, Trump, au dernier moment, a reculé et retardé la sortie, la divulgation de nombreux documents de la CIA. Et à ce jour, aujourd'hui, après Trump, Joe Biden n'a pas encore fait tout ce qui concerne la loi, que la loi pourtant prévoit sur ces informations.
Vous souhaitez changer la vérité officielle. C'est ça votre but.
Yes.
Oui.
Yes. He was not killed by a lone assassin.
Il n'a pas été aidé par un assassin seul. Il a été tué par des gens de pouvoir. Pas seulement à Washington. Tous ces gens, ils sont vraiment coupables.
Et donc,
il leur fallait de toute façon les Rockefellers derrière. Il fallait avoir le soutien pour financièrement. Il y a un élément financier là-dedans. Les gens qui voulaient changer la politique du pays parce qu'ils n'aimaient pas Kennedy. Pas du tout. Kennedy vraiment était contre le business, notamment de l'acier. Et puis, ils n'aimaient pas ces changements dans la politique avec l'Union soviétique pendant la guerre.
Pardon pour cette question qui paraît naïve, mais vous avez une accumulation de preuves. Qu'est-ce que vous voulez à l'arrivée ? Que la CIA dise « c'est de notre faute » ?
Non, non, mais ça, c'est pas possible. Ils sont tellement dans le mal. Ils sont tellement complètement dans le poison. Ils reconnaissent même pas leur propre poison. Les gens qui sont responsables de ça, de façon, sont tous morts. Mais la CIA continue à faire des actes haineux au nom de la démocratie, au nom de la liberté. Ils disent qu'ils protègent les citoyens américains, alors qu'ils protègent les gens qui ont finalement tué le président des États-Unis. Leur mission à l'étranger était sale. C'était vraiment de couvrir la guerre, et ils ont eu beaucoup de succès. Ils ont vraiment bien réussi. Ce qui était un danger pour eux, c'était qu'il était un traître. Et les Américains, à droite, très à droite, comme en France, considéraient que Kennedy était un traître à l'Amérique, et qu'il allait vendre l'Amérique aux Russes.
Est-ce que vous êtes gênant en Amérique? Parce que Netflix a refusé de diffuser votre film.
Je ne suis pas sûr. On a eu une version de 4 heures qui était assez lourde. Je crois que vous avez raison. Je pense que pour eux, c'est assez politique, mais je ne peux pas les accuser. Parce que ce n'est pas un sujet très populaire aujourd'hui, de retourner sur ce passé. On retourne dans une sorte de tempête. Beaucoup de gens ne savent pas. Donc le premier film de fiction est une façon d'essayer de revenir sur le sujet, de mettre et puis comme c'était une façon aussi de revenir sur ce film aujourd'hui, de rendre hommage au film, puisque ça faisait 30 ans.
58 ans depuis la mort. Oui. 58 ans. C'est seulement, l'histoire est importante, et ça, c'est pourquoi il faut le dire. They have to tell the story.
Il faut dire, raconter cette histoire, la vérité aux jeunes. Sinon, il n'y a plus d'histoire dans notre pays. On ne sait plus rien. En France, Dieu merci, vous avez plus de franchise par rapport à la résistance. Et en tout cas, maintenant, aujourd'hui, on sait beaucoup de choses. Mais c'est difficile à avaler. Et même chose pour l'Amérique aujourd'hui. C'est notre guerre à nous. Et la guerre du Vietnam n'aurait certainement pas eu lieu si jamais il était resté à la présidence.
Quand est-ce que vous serez libéré de cette histoire?
Everyone has ghosts to carry.
Tout le monde a un fantôme en lui.
I'd rather have a ghost that means something.
Et je préfère avoir un fantôme qui veut dire quelque chose.
Mais on saura la vérité un jour.
We're all bound by the limitations of.
On est tous limités
of our reality,
par la réalité.
I keep saying it.
Moi, je dis toujours, et des gens bien disent toujours, que les gens savent quelque part. Ils ne veulent pas vraiment y réfléchir. Les gens disent, mais qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Mais c'est vraiment très important aujourd'hui, parce qu'on a encore des guerres en jeu. On est allé en Iran, on est allé en Irak. Panama. Et puis la Syrie, l'Afghanistan. C'est un système de gouvernement qui réclame de la guerre, de la préparation à la guerre, pour que le système toujours tourne et fonctionne. Et c'est vraiment des intérêts très très forts qui sont toujours toujours en jeu.
Je n'avais pas réalisé que Kennedy était aussi dangereux pour l'establishment. C'est ça le pourquoi ?
Voilà la vraie question. Le pourquoi ? Le qui et le comment ne sont là que pour amuser le public. Oswald, Ruby, Cuba, la mafia occupent son esprit comme un jeu de société et l'empêchent de se poser la plus importante question. Pourquoi ? Pourquoi a-t-on tué Kennedy ? Qui en a profité ? Qui a le pouvoir d'étouffer l'affaire ? Qui ?
JFK, l'enquête sortie attendue en France en 2022. En attendant de parler des sorties. Laurent, on va écouter Lady Gaga et Tony Bennett.
My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold.
The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill.
Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see standing there before me.
I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me.
I get no kick in a plane flying too high with some gal in the sky. My idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me.
I get no kick in a plane
flying too high with some gal in the sky. It's my idea of nothing to do. Yet I get a kick.
You give me a word.
I get a kick out of you. Get my kicks out of you.
En direct toujours à Deauville, et avant de retrouver la réalisatrice suédoise de Pleasure, nous allons parler des sorties, parce que les films continuent à sortir, bien sûr.
Il faut même aller les voir dans les salles, impérativement.
Et même celui-là qui est sorti le 28 juillet, et qui, 6 semaines après, tient toujours la route, et incroyablement, 130 000 entrées en France, et La loi de Téhéran de Saïd Roustaï. En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l'on fait, que l'on ait 30 grammes ou 50 kilos sur soi. C'est la peine de mort. Au terme d'une traque de plusieurs années, un flic obstiné aux méthodes expéditives met enfin la main sur le parrain de la drogue. C'est un thriller haletant, de bout en bout, une ouverture à couper le souffle, une fin à pleurer entre les deux. Et à travers cette histoire, sur le trafic de drogue, un état des lieux de la société iranienne aussi juste et fort que dans un film d'auteur iranien, le tout tenu par deux acteurs extraordinaires. Ça s'appelle La loi Téhéran. C'est encore visible sur 230 écrans. On va peut-être les poster sur notre site, le site de l'émission. Il y en a sûrement un près de chez vous. Allez voir cette loi de Téhéran.
Absolument.
Ensuite, on va parler, Laurent, de ce film qui a reçu le prix du scénario à Cannes. Ce très grand film japonais qui s'appelle Drive My Car de Hamaguchi.
Oui, absolument. D'après Murakami, d'après une nouvelle de Murakami, c'est l'histoire donc d'un metteur en scène qui est en deuil de sa femme, dont il a appris juste avant sa mort qu'elle lui avait été infidèle. Et Dans une sorte de volonté à la fois de résilience, de consolation, de construction, de reconstruction, il va monter sur scène Oncle Vania avec, parmi les acteurs, l'amant de cette femme. Oui. C'est, alors dit comme ça, ça pourrait être presque soit boulevardier, soit trop mélo, mais c'est pas du tout le cas. Et c'est, je crois, on n'a pas été les seuls à être sous le charme de ces 3 heures de cinéma, il faut le dire, ces 3 heures, voilà, mais il faut assumer la durée quand elle est aussi bien faite, et on en ressort d'ailleurs en regardant sa montre et en ne sentant pas que les 3 heures sont passées, tellement ce cinéaste a une capacité effectivement à capter le temps qui passe, à capter les choses, les émotions, avec, il faut le dire, il y a au centre, au cœur du film, une très très belle rencontre avec quelqu'un qui le conduit, qui est sa conductrice. Donc il y a la voiture rouge qui est dans le titre et qui est aussi un personnage central du film. Les films qui se déplacent et qui se déroulent et qui vont dans une voiture sont en général plutôt intéressants. C'est bien le cas de Drive My Car qu'on a beaucoup beaucoup aimé et qu'on vous recommande très vivement.
La petite voix qu'on entend dans le fond, c'est Harold Manning en train de traduire à Nina Tiberg nos critiques. On va ensuite aller vers ce film de Bruno Dumont qui s'appelle France avec Léa Seydoux et on écoute un morceau de l'avant-annonce.
Monsieur le Président, on peut légitimement s'interroger sur la situation critique que traverse la société française. Ne pensez-vous pas y être sourd, voire impuissant ?
J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je ne crois pas avoir été sourd.
C'est une attaque de drone ! Vas-y, viens ! On y va, vas-y ! Fais-moi des images, là ! C'est bon, à moi !
Des civils, des enfants, des hommes, des femmes.
Alors ?
Super, regardez.
C'est incroyable comme les gens t'aiment. T'es la plus grande journaliste de France.
Bruno Dumont, sacré bande-annonce. Sacré film qui résonne énormément longtemps après, Laurent, et qui questionne beaucoup. Dumont dit « La sincérité des journalistes souvent fait peine à voir. Tant ayant pris la forme de leur fonction, ils se croient encore libres alors qu'ils sont à l'antenne. C'est précisément par leur conformité au système qui les emploie à leur tâche. » France, donc, est le portrait de cette journaliste incarnée incroyablement par Léa Seydoux.
Oui, alors, vous vous souvenez, Bruno Dumont, on l'avait laissé, si je puis dire, avec ses deux films autour de Jeanne d'Arc,
oui.
Jeannette, notamment, d'après Charles Péguy, c'était deux ovnis incroyables dans le cinéma français, avec d'ailleurs pour le second Christophe qui donne ici avec France sa dernière BO posthume, hélas. Oui. Mais Charles Péguy, il est toujours là, en fait, chez Bruno Dumont, parce que avec ce personnage que vous décriviez, eh bien, Bruno Dumont, dans une farce qui pourrait n'être qu'une sorte de farce à la Mocky, eh bien, Bruno Dumont, il met en illustration la fameuse phrase de Charles Péguy qui nous disait à nous journalistes, pensez donc un peu contre vous-même. Et cette journaliste, elle va commencer à penser contre elle-même, c'est-à-dire qu'elle va, à la suite d'un incident qu'on décrira pas, elle va redécouvrir autre chose, elle va s'interroger, elle va percer, non pas le mystère, mais percer la, peut-être son armure de Jeanne d'Arc pour découvrir autre chose, les choses qui sont derrière les choses, comme on disait. Et vous avez tout à fait raison d'insister sur la performance, j'aime pas le mot, de Léa Seydoux, qui alors elle-même, en tant qu'actrice, on l'a jamais vue comme ça. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle fend l'armure. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle pense presque contre son statut de d'actrice star.
Ouais,
absolument.
Ouais.
Et ça, c'est Bruno Dumont qui arrive. Bref, on sait, depuis l'humanité, Bruno Dumont, il cherche la grâce dans n'importe quel individu. Et bien là, il la trouve encore une fois avec Léa Seydoux.
Le fils de l'épicière, le maire, le village et le monde, c'est un doc de Claire Simon à Lussas en Ardèche. Jean-Marie Barbe se lance dans une entreprise toute singulière. La création d'une plateforme numérique par abonnement dédié aux documentaires d'auteurs. C'est super pointu, hein, ça.
Bah oui, c'est Claire Simon. D'abord, on adore Claire Simon parce que elle a une capacité à se fondre dans des univers documentaires comme ça, tout à fait incroyable. Et ce petit village que les documentaristes aiment beaucoup, hein, c'est quasiment la mecque du documentaire en France, presque, hein, Lussas en Ardèche. Et c'est vrai que ce qu'elle montre, ce sont des gens en lutte. Alors, il y a le maire qui lutte contre la désertification de son village. Il y a cet homme qui voudrait lancer, il va y arriver, cette plateforme Tank qui existe et qui est tout à fait de très 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 grande qualité. Il y a aussi ces agriculteurs qui essayent de sauver l'agriculture. Bref, c'est un film de combat, c'est un film de lutte et qui donne la pêche. Voilà. Donc Claire Simon réussit parfaitement de ce point de vue-là sa mission de documentariste en action.
Il nous reste une petite minute, mais on va parler de deux films, Atarabi et Michelas de Eugène Green. Un film en langue basque.
Oui. Alors Eugène Green, hein, c'est vraiment un cinéaste tout à fait.
Oscar.
Voilà, tout à fait à part. Vous savez, que c'est un cinéaste qui est né aux États-Unis, et on va le dire ici à Deauville, on va se faire un petit plaisir, il dit que c'est en barbarie qu'il est né. Voilà, l'image qu'il a des États-Unis, de son pays natal. Au secours. Il adore la langue du 18e siècle française, il lui a consacré des films, et cette fois, il fait parler en basque. C'est un film en basque, c'est un film en basque et c'est un film rock. Alors, certains ont dit c'est un film baroque, évidemment, le jeu de mots est là, ou c'est un film basque rock, mais c'est un très beau film.
On termine très vite sur Cher camarade d'André Konchalovsky, même si ce film est important, Laurent.
Merveille, en noir et blanc, après Michel-Ange, Konchalovsky revient sur le passé très stalinien de la Russie, au moment où, effectivement, l'armée soviétique tire simplement sur des ouvriers en grève. Vous voyez le tableau.
Oui, voici nos recommandations, donc, pour cette rentrée. Tandis que nous accueillons Ninia Tiborg, bonjour Ninia.
Hello.
Bonjour.
Vous êtes une cinéaste suédoise et votre film Pleasure raconte l'histoire d'une jeune Suédoise qui débarque à Los Angeles dans le but de faire carrière dans l'industrie du porno. Sa détermination et son ambition la propulsent au sommet d'un monde où le plaisir cède vite la place au risque, à la toxicité et à la misogynie. On écoute un morceau de la bande-annonce de Pleasure.
Good morning.
Good morning.
Are you here for business or pleasure?
Pleasure.
Do you know what you're here for?
Yes.
Any no's, do's or don'ts?
No.
Are you ready to make a banana happy? Suck it.
I'm here to be the next big porn star.
Hey, I came to fuck shit up. I see too much, I want too much.
Sexy, be sexy.
Who's the girl?
That's the new Spiegler girl.
What's the Spiegler girl?
They're like the A-listers of porn.
Ninia Tiborg, vous êtes en compétition ici. Découvrir un milieu, celui du porno, sur lequel on a beaucoup de clichés, d'idées, parfois fausses. Quels étaient les vôtres sur ce milieu du porno?
Je travaille sur ce sujet depuis 20 ans maintenant. Et j'ai commencé quand j'avais 16 ans et j'étais en colère. J'étais vraiment contre le porno et j'étais engagé dans ce combat. Et ça a été donc un long cheminement pour moi. J'ai fait des études de genre et j'ai écrit un essai sur le porno. Ensuite, j'ai fait partie d'un collectif de réalisatrices féministes qui faisaient du porno. Et donc, ça a été un long cheminement. J'ai dû passer 5 ans à fréquenter l'industrie du porno à Los Angeles pour faire des recherches. Et donc, le film, finalement, s'inspire des gens que j'ai croisés là-bas et de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu. C'était très intéressant pour moi de pénétrer ce monde et de le voir avec mes yeux à moi. Parce que c'est finalement un monde que peu de gens connaissent.
Quelle est la pire idée qu'on puisse faire sur ce métier qui est complètement fausse, sur le milieu du porno?
Well, it's a good question.
Ça, c'est une bonne question.
It depends. There's so many
different
misconceptions,
but idées préconçues sur ce film, de préjugés.
I think it's like the people working there.
Je crois que les gens qui travaillent dans ce milieu sont des gens normaux. Ils font comme vous et moi, sauf que leur boulot est un peu différent quand même. Et vraiment, leur journée commence très tôt le matin, et puis ils finissent vers 17h. C'est comme un vrai boulot normal. Et puis ils s'occupent de leurs gosses, après ils rentrent chez eux. Sur le plateau, les gens plaisantent. Il parle d'anecdotes. Quand on s'habitue au fait que les gens sont nus, finalement, ils font un boulot et qu'ils font l'amour à l'écran, c'est vraiment comme n'importe quel boulot, n'importe quel lieu de travail. Naturellement, il y a différents genres de porno, de films porno. Mais là où je suis allé, vraiment, les gens, j'ai trouvé les gens toujours très gentils, très sympathiques. Mais il y a un côté plus noir, bien sûr, à tout ça.
Il y a quand même la volonté de ne pas porter un jugement moral. Oui, c'est juste. Ce film, ce n'est pas tellement seulement sur le porno. Ça parle de notre société, des structures de pouvoir dans lesquelles nous évoluons. D'être une femme aussi dans un milieu extrêmement dominé par les hommes.
Je pense pas que c'est intéressant de d'essayer le côté les mauvais, les gens mochants, les gens horribles, etc. Non, j'ai envie de parler de la structure, de ce qui est le cadre et des structures dans lesquelles cette industrie s'est organisée, qui ressemble à celle de toutes les industries finalement, et des relations entre les gens dans ce monde. Que c'est le profit qui finalement qui règne et qu'il règne sur l'humanité. L'effet que ça a sur les gens, sur les relations humaines.
Vous dites, il est clair que je ne filmerai jamais du vrai sexe. Du coup, c'est compliqué de faire du faux avec du vrai. Sur le porno. Il est clair donc que je disais que vous ne filmeriez jamais du vrai sexe. Il faut pas filmer, vous ne vouliez pas filmer du vrai sexe sur une industrie qui repose là-dessus.
Ça n'a pas été un choix très difficile finalement comme décision à prendre. On n'avait pas tellement besoin d'expliciter les scènes de sexe vraiment parce qu'on n'avait pas besoin de ça pour notre film. C'était important plutôt pour nous que je voulais montrer ce regard féminin, female gaze, dans un monde qui est complètement constitué par le male gaze, le regard masculin. Je voulais montrer ce que l'on ne voit pas finalement dans les films porno d'habitude, ce qui se passe en dehors de la caméra, en dehors du porno traditionnel. Donc, en fait, c'est comme finalement passer la caméra dans un contre-champ pour montrer ce qui se passe derrière la caméra. Et de montrer finalement ces hommes qui jouent dans ces films. Et je savais que ça aussi, que j'avais envie de filmer les hommes aussi dans ce milieu.
Cette jeune fille, Sophia, elle veut aller loin, elle est prête à y aller dans cette industrie et à jouer, mais elle doit faire face quand même au consentement. Sans cesse, on lui dit, est-ce que c'est bon pour toi? Et en fait, dire non sur un plateau porno, c'est perdre son travail.
Et oui, tout à fait. Mais j'ai l'impression que c'est un mythe quelque part de dire qu'on peut toujours dire non. Bien sûr, effectivement, on peut toujours dire non. On peut arrêter la prise, on peut arrêter, refuser de faire quelque chose. Mais en fait, les acteurs et actrices ne le font jamais parce que c'est un boulot et vous voulez être un bon employé. On veut être gentille. Mais j'ai l'impression que tout ça, c'est lié à beaucoup, beaucoup de situations d'employeurs employés dans d'autres boulots ailleurs. Quelque part, il faut toujours dépasser ses propres limites pour satisfaire l'employeur. Et pour aussi ne pas décevoir son employeur.
Et toutes les femmes qui jouent, elles sont conscientes de ce pouvoir patriarcal, en fait. Elles s'accordent bien avec, elles jouent avec ça.
Quand j'ai commencé à connaître cette industrie, j'avais donc étudié à l'université les études de genre, et ça avait été un sujet vraiment pour moi pendant beaucoup d'années. Je pensais tout connaître, et je pensais être une féministe éclairée, et que je savais tout de cette structure patriarcale. Mais mais j'ai dû un petit peu descendre de mon escabeau et aussi comprendre que ces femmes savent plus de choses sur le patriarcat que moi qui venais de mes études et qu'elles le vivent quelque part dans leur chair. Elles doivent être intelligentes, il faut avoir une stratégie aussi quand on fait ça. Et nous avons beaucoup à apprendre de ces actrices parce qu'elles savent ce que c'est que le patriarcat.
D'une certaine façon, elles prennent le pouvoir aussi sur ce patriarcat, dans leur façon de mener une carrière, par exemple.
Eh bien, c'est pas vraiment prendre le pouvoir, parce que c'est vraiment les hommes qui dominent, quand même. Même si ça s'améliore, Ça reste dur d'être une femme dans cette industrie.
Nina Tiberg, la pornographie n'est pas que dans les films pornographiques, elle peut être partout ailleurs.
Ça dépend ce que vous voulez dire par la pornographie. C'est assez large. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Elle peut être dans une société, dans la violence de rapport. C'est pas uniquement dans un, je veux dire, c'est pas uniquement dans la, dans le milieu, dans les, dans ces films porno. Je veux dire, la pornographie est par, peut être partout dans le système politique, social.
Qu'est-ce que vous voulez vous dire par pornographie dans le milieu politique, social?
Que ça peut être pornographie, je veux dire que ces rapports de classe se retrouvent partout, quoi. Ces rapports de force et de classe se retrouvent partout.
Ah oui, oui, tout à fait, oui, bien sûr.
Voilà, et bien, écoutez, merci beaucoup. Ce film s'appelle Pleasure. Je sais que vous avez un bel avenir devant vous parce que je crois qu'un studio américain, même si vous voulez pas en parler, va vous récupérer bientôt. Vous faites un mouvement devant vos lèvres en disant
«
on n'en parle pas ». On attend ce film le 20 octobre. On ne sait pas encore s'il sera interdit au moins de 16 ou de 18 ans. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En tout cas, votre actrice Sophia Capel a eu beaucoup de courage, je trouve, de jouer ce rôle. Et en plus, c'est un premier rôle et elle n'avait jamais joué avant, c'est ça?
Mais non, oui, c'est son premier rôle. Elle n'avait jamais joué la comédie auparavant, de toute sa vie.
Et donc,
c'est vraiment une performance incroyable qu'elle nous offre.
Et puis tous les autres, finalement,
tous les autres films sont souvent, les autres acteurs sont souvent des acteurs de vrais acteurs de porno dans le film, et donc elle a dû faire face à ça. Et elle a dû vraiment aussi porter tout ce film sur ses épaules. Et elle fait ça d'une façon fantastique. Je suis très fier d'elle.
On voulait dire merci beaucoup, Nina Tiberg. On voulait dire un mot sur ce cinéaste afghan auquel on pense, qui s'appelle Salim Shaheen, qui est actuellement retenu dans son pays, qui devait revenir mais qui était bloqué dans un bus juste au moment de l'attentat. Voilà, on pense bien fort à lui et à ce documentaire Nothing Wood de Sonia Kronlund qui parle de lui et qui est le film qui est disponible en VOD sur Univers Ciné. Merci à Claire Destacan pour la réalisation avec Laurent Thomas, merci à Christophe Magère pour la préparation, à Thierry Dupin pour le choix des musiques. Au revoir.
Retrouvez-nous sur franceinter.fr.
Oui, à la semaine prochaine, à Paris.